Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro Tsige Chiferao, cette semaine, Escale s'intéresse à François Crépeau, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit des migrants. Aux côtés de Francisco Carrión Mena, du comité chargé de la protection des droits des travailleurs, migrants et de leurs familles, ils ont ouvertement critiqué l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité quelques jours auparavant, permettant l'arraisonnement de navires servant au trafic de migrants et à la traite d'êtres humains en provenance de Libye.
Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça.
Dans une lettre ouverte publiée le 23 octobre dernier, deux experts des droits de l'homme des Nations Unies se sont exprimés suite au vote par le Conseil de sécurité deux semaines auparavant d'une résolution exhortant les États membres concernés à inspecter les navires en haute mer au large des côtes libyennes afin de mettre un terme au trafic de migrants. Cette mesure, qui devrait durer un an, autorise également la destruction des embarcations concernées. L'un des deux experts, François Crépeau, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit des migrants, explique pourquoi cette mesure n'est pas viable sur le long terme.
Nous sommes préoccupés par la résolution du Conseil de sécurité qui soutient l'initiative de l'Union européenne d'avoir une force navale en Méditerranée pour lutter contre, on ne sait pas très bien, ils utilisent alternativement les passeurs ou les trafiquants. Il y a confusion sur cette terminologie. Bon.
Et pourquoi est-ce que vous estimez que ce n'est pas une bonne chose ?
Lutter contre les mafias, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais dans ce cas-ci, ces passeurs existent, parce que les États ont posé des barrières à la mobilité. Tant qu'il y aura des barrières à la mobilité, il y aura des passeurs. Les passeurs sont des mafias extrêmement adaptables. Elles ont des moyens technologiques qui fonctionnent très bien. Elles sont très rapides, elles peuvent modifier leur route très rapidement. Elles auront toujours une longueur d'avance sur les États.
Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre un passeur et un trafiquant ?
Alors, le passeur, c'est quelqu'un qui, contre généralement une somme d'argent, mais parfois de façon gratuite, fait passer une frontière de façon irrégulière. Le trafiquant, c'est celui qui fait de la traite humaine. C'est-à-dire, c'est celui qui va vendre une personne, soit à des fins d'exploitation sexuelle, mais aussi ça peut être à des personnes qui vont les faire travailler de force. C'est du travail forcé parce que ces personnes-là ne sont pas toujours payées, ont des conditions de vie extrêmement misérables. Et donc le passeur de migrants qui n'est pas forcément quelqu'un qui va exploiter la misère, sauf à demander un paiement, paiement qui peut être très cher d'ailleurs, n'est pas forcément un trafiquant. Et là, il y a une distinction radicale.
Selon François Crépeau, la migration est un phénomène naturel chez l'homme. Pour l'expert, il paraît clair que, quels que soient les obstacles, il sera bien difficile pour la région Europe notamment d'endiguer le phénomène. D'autant que selon lui, les pays européens ne contrôlent en rien leurs frontières, alors que l'Europe tente de les fermer.
La migration, c'est dans la génétique de l'espèce humaine. Nous sommes une espèce qui s'est toujours déplacée. Nous sommes nés, semble-t-il, d'après ce que disent les généticiens, de la même femme il y a 200 000 ans. Nous sommes sortis, semble-t-il, d'Afrique il y a probablement 80 000 ans. Nous sommes arrivés en Australie il y a 60 000 ans. Nous avons conquis l'Europe il y a 40 000 ans. Nous sommes entrés en Amérique du Nord par le détroit de Bering il y a 18 000 ans à peu près. Et nous sommes arrivés en Terre de Feu 2000 ans plus tard. Nous sommes une espèce migrante, nous avons migré, il y a encore des peuples migrants aujourd'hui. Nous ne le voyons peut-être plus depuis que nous avons établi l'agriculture et les villages il y a 10-11 000 ans. Si la plupart d'entre nous remontons deux générations dans notre histoire, la plupart d'entre nous n'habitent pas dans la ville de naissance de nos quatre grands-parents. Il y a donc eu une migration qui peut être une migration courte, un exode rural. Ça peut être une migration à l'intérieur d'un même pays, mais au travers d'un continent. Ça peut être une migration internationale, mais avec peu de distance. Comme ça peut être une migration intercontinentale. Donc, cette migration, elle existe. Elle a toujours existé. Et je ne vois pas qu'il y ait des signes que la migration sorte de notre ADN dans les générations à venir.
Comment expliquer dans ce cas que dans les pays occidentaux dans l'ensemble, une culture se développe pour essayer de stopper un phénomène qui en fait est naturel chez nous ?
parce que nous avons créé des États-nations à la Renaissance, qu'on a développé un discours nationaliste au XVIIe, XVIIIe siècle, que ce discours nationaliste a entraîné d'ailleurs des guerres épouvantables au XIXe et au XXe siècle, que nous avons établi des papiers d'identité et des documents de voyage dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec la création de toute une administration des frontières, et que nous avons fini par faire l'équation entre souveraineté territoriale et capacité d'arrêter les gens à la frontière. Or, ça, c'est un fantasme. Les gens ne se sont jamais arrêtés à la frontière. Toutes les frontières sont poreuses. Les frontières démocratiques sont encore plus poreuses que les autres.
Pourquoi ?
Parce qu'une frontière, c'est une ligne dans le sable. Et si vous ne mettez pas un soldat tous les 10 mètres avec ordre de tirer à vue, eh bien, les gens passent. On a ce fantasme derrière la tête, et qui a été renforcé depuis le 11 septembre 2001, que la souveraineté territoriale, c'est la capacité d'arrêter les gens à la frontière. C'est faux. La souveraineté territoriale, c'est savoir qui passe la frontière. Mais pour le savoir, il faut qu'ils viennent vous voir, vous, le garde-frontière. Et là, on peut les enregistrer, leur demander leurs papiers. En Europe, ce sont les passeurs qui font rentrer les gens par les frontières. Et les États ne contrôlent rien. Alors c'est quand même paradoxal de voir qu'au nom du contrôle des frontières, les États ont perdu le contrôle de la frontière.
Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
François Crépeau avance certaines propositions pour tenter de résoudre la crise des migrants et réfugiés. Des solutions concrètes qui s'inspirent des situations qu'ont connues des générations d'immigrés qui se sont succédées en Europe notamment.
Le vrai contrôle de la frontière, ce que les États européens pourraient récupérer, c'est de savoir qui rentre. Pour savoir qui rentre, il va falloir que les États européens offrent les services de mobilité dont les migrants ont besoin et qui, pour l'instant, sont offerts par les passeurs. C'était exactement ce qu'a fait l'Europe dans les années 50 et 60. Des millions d'Africains et de Turcs, sans compter les Est-Européens comme des Polonais, sont entrés en Europe de l'Ouest dans les années 50 et 60. Il n'y avait pas de passeurs, il n'y avait pas de morts en Méditerranée. Pourquoi ? Parce que les gens avaient le droit de venir, ils pouvaient demander un visa, ou alors ils avaient une dispense de visa, et ils pouvaient acheter un billet de ferry à partir de traversier, à partir d'Alger, ou à partir de Izmir, ou à Istanbul, et ils entraient tout à fait légalement. Et ils entraient avec un visa, souvent de visiteurs, qui ne leur permettait pas de travailler, mais s'ils trouvaient du travail, ils pouvaient aller à la préfecture et obtenir un permis de travail. Mais ça, c'était de la mobilité contrôlée. Et il n'y avait pas de liberté de circulation des personnes. Il y avait des contrôles à toutes les frontières. Quand on partait du Maroc, qu'on passait en Algérie, qu'on traversait à Marseille, qu'on passait en Belgique et qu'on passait aux Pays-Bas, on avait montré ses passeports 5 ou 6 fois. Mais ça marchait bien. Parce que les gens ne se voyaient pas interdire. Nous avons établi des barrières depuis 30 ans autour de Schengen, Dublin, tous des systèmes qui empêchent les gens de se déplacer. À partir du moment où on a essayé d'empêcher les gens de se déplacer et où ces gens-là avaient l'idée de la mobilité qui vient de la globalisation, qui vient que maintenant, technologiquement, c'est facile. L'idée de mobilité, elle n'existait pas il y a 100 ans, elle existe aujourd'hui.
Donc pour vous, c'est en complète contradiction avec le phénomène qui se passe à l'heure actuelle.
Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les gens bougent. Et si on essaie de les empêcher, ils bougeront autrement. Si on décide de l'organiser, eh bien c'est nous qui allons leur donner les papiers, qui allons vérifier leurs identités, passer ça dans les bases de données de sécurité pour voir si ce n'est pas des criminels de guerre. Et puis, on va leur donner des visas. Ils vont payer 200 euros, 500 euros pour le visa, au lieu de donner 20 000 euros à un passeur. Et puis, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'ils sortent aussi. Et puis, on va leur donner l'autorisation de le faire. Nous allons contrôler ce qui se passe à la frontière. Nous saurons qui entre, qui sort, qui travaille, parce que tout ça sera légal. Et pour moi, c'est une situation qui est 100 fois meilleure parce qu'elle nous permet de planifier à l'avenir. Si on sait qu'il y a 100 000 personnes qui vont rentrer en France et dont on sait qu'elles ne parlent pas français, par exemple, eh bien, il faut prévoir des cours de français pour 100 000 personnes. Planifions, embauchons des profs, créons des classes. Ça suppose un investissement. Mais ces gens-là, si on leur permet de venir trouver des emplois, de chercher des emplois, vont obtenir des emplois et vont commencer à payer des impôts, des taxes.
Est-ce que ces pays vous écoutent ?
L'Europe ne m'écoute pas du tout en ce moment. L'Europe est assez sourde à ce genre de discours parce que la plupart des dirigeants européens, sauf Mme Merkel, fonctionnent encore avec ce fantasme qu'il est possible d'empêcher les gens de venir. que si on verse suffisamment d'argent à la Turquie, elle va bloquer les gens sur son territoire, que si on verse suffisamment d'argent à la Tunisie, elle va bloquer les gens sur son territoire, et si on fait des accords avec les diverses factions libyennes, ils vont bloquer les gens sur leur territoire, et que si on verse suffisamment d'argent à l'Italie, à la Grèce, ils vont bloquer les gens sur leur territoire pour pas qu'ils arrivent en France, en Angleterre, et que si on paye suffisamment les Français, ils vont bloquer les gens à Calais, et que tout va être réglé un jour si on y met suffisamment de moyens sécuritaires. Ça fait 30 ans qu'on essaye. Ce que fait l'Europe depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, ne fonctionne pas.
Plusieurs pays, en particulier l'Allemagne, ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à accueillir un grand nombre de réfugiés syriens. D'autres pays, en revanche, n'ont pas l'intention de faire venir beaucoup de réfugiés chez eux. François Crépeau pense que cette mesure est purement politique.
Combien de générations faudra-t-il avant que l'Europe se rende compte que de bloquer la mobilité tout simplement ne fonctionne pas ? Il vaut mieux en prendre le contrôle. Et pour en prendre le contrôle, eh bien, il faut offrir les solutions de mobilité. Alors, ça signifie pour les réfugiés syriens, dont on sait qu'ils sont des réfugiés. La Suède l'a dit dès le départ. Tout Syrien sur le territoire suédois sera automatiquement reconnu réfugié. En faisant ça, d'abord, vous venez de supprimer une charge énorme pour votre système de reconnaissance du statut de réfugié. Donc, parce que vous les reconnaissez tout de suite. Bon. Première chose, on a épargné déjà beaucoup d'argent des contribuables. Deuxièmement, pourquoi les laisser prendre des bateaux en Libye ou en Turquie ? Pourquoi les laisser risquer la vie de leurs enfants ? Pourquoi les laisser payer 20 000, 10, 15, 20 000 euros à des passeurs ? C'est absurde. Pour les mêmes résultats, l'État européen qui décide de le faire peut encaisser cet argent ou une partie de cet argent. Donc, un pays comme le Danemark envoie une délégation à Beyrouth, à Amman et à Istanbul et sélectionne un nombre qui a été défini. Alors, si on s'entend tous pour se répartir ces réfugiés, eh bien, on va ouvrir des bureaux dans ces trois villes et on va accueillir, par exemple, le Danemark pourrait se voir assigné d'accueillir 10 000 réfugiés par année pendant 5 ans. Eh bien, chaque année, l'équipe du Danemark à Amman va sélectionner, en fonction de priorité, avec discussion avec le HCR, un certain nombre de personnes qui partiront par avion avec les bons papiers, en ayant payé probablement un petit peu pour les visas et peut-être les coûts du transport, pas tous, mais en tout cas une partie. Et on aura préparé leur arrivée. Ils arriveront à l'aéroport, pas par bateau. Ils arriveront toutes les semaines en nombre relativement égal, de manière à ce que l'on organise leur passage de façon non chaotique. Il y aura des ONG qui seront prévenues, qui seront à l'aéroport. Il y aura des appartements qui les attendront parce qu'on aura trouvé des logements temporaires en attendant qu'elles se trouvent eux-mêmes leur logement. On aura des cours de langue qui seront prêts. On aura des écoles pour inscrire. Tout sera organisé. Et ça suppose effectivement un investissement de départ. Mais moi, ce que je prétends, et c'est l'expérience de la plupart des pays d'immigration, c'est que cet investissement, il est repayé au centuple en quelques années.
Les pays scandinaves, la Suède, la Norvège et dans une certaine mesure le Danemark, ainsi que l'Allemagne, sont en train de démontrer qu'il est possible de recevoir un certain nombre de migrants. L'Allemagne accepte d'en prendre près d'un million. Comment se fait-il que d'autres pays européens ne suivent pas la même ligne ? Est-ce que c'est purement politique ?
Je pense que la résistance à l'immigration, elle vient de toutes sortes de raisons, mais je pense que la plus grosse raison en ce moment en Europe, c'est le discours nationaliste populiste qui a été créé à la fin des années 70, début des années 80. Je crois que l'arrivée de Jean-Marie Le Pen sur la scène politique française au tout début des années 80 a cristallisé un certain discours. Il a dit, il y a 33-34 ans, 2 millions d'immigrés, 2 millions de chômeurs, faisant une équation qui, d'un point de vue de la science, des sciences sociales et des sciences économiques, est une absurdité totale. Les 2 millions d'immigrants et les 2 millions de chômeurs n'ont aucune commune mesure et ce ne sont pas des paquets que l'on peut remplacer par d'autres paquets. Mais c'est resté dans la tête de tout le monde.
Et c'est avec François Crépeau, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits des migrants, que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine au rapporteur des droits des migrants de l'ONU, François Crépeau. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.